IDFM Radio 98 FM.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM, bienvenue si vous nous rejoignez, Sabrina avec vous pour l'émission Le Carré des Artistes. Aujourd'hui nous recevons Sandra Rinflet, elle vient nous parler de son exposition Nouvelle Reine qui se tiendra jusqu'au 27 avril 2025 à la Basilique Cathédrale Saint-Denis dans le 93. On va également découvrir son parcours, son art, ses arts. Elle est inventeuse d'histoires vraies, elle choisit l'outil pour mettre en scène le réel. Bonjour Sandra.
Bonjour Sabrina. Bonjour à tous.
Bonjour. Est-ce que ma petite intro te convient ?
Bah oui, c'est une façon très bien résumée d'un parcours pas facile à rendre cohérent.
Et on va essayer justement de te découvrir aujourd'hui dans cette émission. On va parler de ton parcours qui est quand même, pour moi, extraordinaire, rempli d'histoires. Et peut-être que ça va donner envie à nos auditeurs de se lancer.
Bah j'espère.
Des choses.
À pas avoir trop peur.
C'est ça, à pas avoir trop peur. Donc je l'ai dit, tu es inventeuse d'histoires vraies et on va comprendre pourquoi dans cette émission. J'ai quand même donné un indice, choisir un outil pour mettre en scène le réel. Mais pour le côté plus conventionnel, on peut dire que tu es autrice, photographe, conférencière, chanteuse. Tu m'as dit là juste avant que tu faisais même un peu de radio, que tu as fait un peu de radio. Qu'est-ce qui t'a inspirée à devenir, j'ai pas envie de dire couteau suisse, mais artiste avec un grand A?
J'ai pas vraiment choisi, je veux faire ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours dit que je serais voyageuse, chanteuse, écrivaine, photographe, c'était pas vraiment dans le plan A et finalement c'est ce qui a pris le plus de place. En tout cas j'ai toujours su que je voulais créer en changeant d'outils. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui deviennent experts dans leur domaine et heureusement que oui. Les chirurgiens sont de bons chirurgiens et exclusivement ça.
Mais ça peut être aussi des bons photographes.
Peut-être, oui. Mais en tout cas, il y a des niveaux d'expertise plus importants. Moi, j'aime la variation, le fait de pouvoir choisir un outil en fonction du sujet. Pour moi, c'est la même chose. Tu racontes une histoire, ensuite tu choisis de la raconter soit avec une image, soit avec un son, soit avec un texte. Mais ça reste une histoire. Mais c'est assez cloisonné en France. Moi, ça m'a pris des années de pouvoir faire accepter ça, cette multiplication des supports.
Oui, parce qu'on te dit que t'es une touche à tout. J'ai entendu plusieurs interviews et moi c'est vrai que le terme touche à tout, je le trouve un peu péjoratif en fait. Mmh. Parce que touche à tout, c'est un peu tu fais tout, tu fais rien.
Ouais.
Comment tu l'as ressenti toi ?
Ah bah au début c'était vraiment ça. C'était si tu fais tant de choses, t'as pas un vrai métier. Donc j'ai essayé de mettre une cohérence là-dedans. C'est pour ça ce terme inventeuse d'histoires vraies. C'était une manière pour moi de résumer ce que je faisais avec tous les médiums, c'est-à-dire utiliser le réel, partir d'une matière documentaire. Moi je suis très sensible aux sujets de société, aux sujets politiques. Je suis assez engagée, je crois. Et ensuite j'assume une forme d'interprétation. Je fais pas du reportage pur et dur. Je suis pas photojournaliste. Je ne suis pas sociologue. Je suis pas essayiste. J'accepte la subjectivité du regard à chaque fois.
Alors toutes ces pratiques, elles te viennent d'où ? Parce que, je sais pas, pour les chanteuses, c'est souvent, mes parents sont musiciens, sont chanteurs, je chante depuis petite. Mais toi, ça te vient d'où ? Est-ce que tu as baigné dans l'art, entre guillemets ?
Non, pas du tout. Moi, je viens d'une famille pas du tout artiste, pas du tout sensible à ce milieu-là. J'ai grandi dans l'ouest de la France, à Saumur. Non, parents pas du tout sensibles à ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça a toujours été comme ça. Petite, je sais pas, je séchais les récréations pour créer un groupe de musique alors qu'on jouait de rien du tout. J'avais créé une maison de couture et on scotchait les fringues. Enfin, je sais pas, j'ai toujours été faite comme ça. Je sais pas d'où
sortie,
ça vient.
Pas de sortie, pas de théâtre, expo. Il y a pas quelque chose qui t'a marqué dans ton enfance?
Non, j'ai très peu baigné dans la culture, ça m'a d'ailleurs beaucoup manqué et je l'ai beaucoup compensé à l'âge adulte. Pareil pour le voyage. Moi je viens d'une famille où ma mère était très inquiète de tout. J'avais pas le droit de sortir, enfin, j'ai grandi dans une cité mais bon, voilà, une cité à Saumur hein, donc c'est pas non plus
c'est pas non plus
les 4000 voilà. Mais mes parents c'était les médecins de la cité, donc on était les bourgeois de la cité.
D'accord.
En gros, on habitait dans une petite maison mais autour de nous il y avait plein de barres d'immeubles et moi j'avais pas le droit de sortir. J'ai souvenir vraiment d'été interminable dans le jardin à regarder ce qui se passait de l'autre côté du portail et moi ça me faisait rêver quoi, ces jeunes.
Ouais.
Je voyais ces jeunes qui buvaient des bières à l'arrêt de bus et qui passaient avec leur mobylette qui claque et je me disais mais moi je veux ça, je veux aller voir ça, je veux partir quoi. Et le fait qu'on finalement m'empêche de bouger m'a donné une soif intarissable.
Ouais.
d'aller voir ailleurs et de passer le portail, la gare, le pays. Donc ça n'a pas du tout marché. Hein. Aux parents qui écoutent et qui essaient de garder leurs enfants sous cloche, l'effet est souvent totalement inverse. J'ai eu ensuite une boulimie de découvrir et la culture et l'ailleurs.
Ouais. Et du coup, tes parents, ils en pensent quoi ? Ils en pensaient quoi ? Je ne sais pas si...
Bah, ils n'ont pas été très encourageants sur le projet, hein, on ne peut pas dire, mais... Mais bon, aujourd'hui, ils sont un peu rassurés. Ça part souvent d'une peur. Ouais. Et ça semble, surtout quand on connaît pas ce milieu du tout artistique, c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est incertain et c'est vrai que ça l'est. Hein. Moi, j'ai toujours une vision à plus trois mois, pas davantage, de ce que je vais faire dans l'avenir. Mais moi, ça me va très bien. Puis au bout d'un moment, ils s'y sont faits. Ils voient que ça va, je leur demande pas d'argent, je vis bien.
Ouais. Tu en vis aujourd'hui, on peut le dire, de ton art, de ta passion, de tes passions ?
Oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance de faire exclusivement des projets importants pour moi. Je ne fais pas ce qu'on appelle d'alimentaire. Ouais. Donc c'est que des projets qui comptent et que je choisis. Ça, je sais que je suis très privilégiée là-dessus, mais ça m'a pris des années. Enfin, ça n'a pas été tout de suite. Hein. J'ai vécu au RSA au début, je vendais rien comme livre. Enfin, voilà, c'est des parcours qui se construisent vraiment en mettant des petites pierres à l'édifice jusqu'à ce qu'on te considère. Il faut des preuves, il faut de la persévérance et il faut croire en soi et pas se laisser décourager au premier échec parce que moi j'en ai eu plein. Enfin, je sais pas, j'ai des souvenirs.
T'as envie d'abandonner, je pense. T'as eu envie, en tout cas peut-être, d'abandonner ou tu t'es peut-être questionné sur ton choix, ton orientation.
Abandonner, pas vraiment, parce que j'ai toujours senti au fond de mes tripes que c'était ça que je devais faire. Mais c'est sûr que j'ai dû avaler des couleuvres parfois. Enfin, j'ai des souvenirs, mais en fait, c'est drôle. Et je sais pas, j'ai des souvenirs de concerts dans des bars où on entendait plus le bruit de la tireuse à bière que mon ampli. J'ai des souvenirs de livres, de salons du livre où t'es devant tes bouquins et à côté de toi, il y a une star de la télé qui en vend des centaines et les gens s'accoudent sur les tiens. Et voilà, faut avaler ces choses-là et se dire que un jour ça va marcher. Et puis en effet, un jour ça marche.
Et à quel moment alors tu as été entre guillemets validée? Qu'est-ce qui a fait ?
Alors, je ne sais pas si c'est un moment précis, mais disons que j'ai commencé à vivre vraiment de ce que je faisais il y a 10 ans, au bout de mon troisième livre, par exemple, et quand j'ai commencé la photographie en particulier.
Le troisième livre, c'est celui sur les femmes ?
Non, ça c'est mon premier livre. Ça c'était un récit de tour du monde. Le troisième livre, c'est quand j'ai commencé à faire de la photo. C'est un livre qui s'appelle « Qui a tué Jacques Prévert ?»
D'accord. Ok, dont on a parlé un peu hors antenne. Du coup, par quoi tu as commencé ? Par quelle pratique tu as commencé ?
J'ai commencé par être chanteuse. Je m'appelais Marine Good Morning parce que j'avais choisi ce nom quand j'avais 6 ans parce que je voulais un nom anglais et que je connaissais que ça. Et donc, j'ai commencé à écrire des chansons et à me produire avec un groupe. Alors c'était pas le grand succès, hein. J'ai découvert c'était assez difficile, on était en résidence dans des théâtres, on jouait toutes les semaines et puis à la fin on gagnait zéro entre les minimums garantis et ce qu'on recevait en recettes, c'était bon, je le faisais néanmoins.
Ça te coûtait des sous plus que ça t'en rapportait.
Exactement, on a joué au festival Solidès, ça c'était super, enfin il y a eu des moments assez chouettes mais clairement pas de là à en faire un métier et moi je voulais pas faire des concerts alimentaires, c'est-à-dire qu'on me proposait de faire des soirées de, je sais pas, de mariage, je sais pas quoi. Moi je voulais pas ça. Pour moi il y a deux boulots différents, hein. C'est valable dans la musique, dans la photo, même dans l'écriture. Il y a la création, c'est-à-dire ce qui vient de soi, et ensuite il y a l'artisanat, c'est ce qu'on fait pour d'autres. Il y a plein de photographes qui font, c'est un autre métier vraiment, des photos de commande.
Sur donc, commande, oui.
Voilà. Moi, j'essaie, je veux pas faire ça. Voilà. Tant que je touche du bois.
Tu fais pas de photos de mariage ?
Non, je fais pas de photos de commande. Je fais que des photos long cours sur des sujets de société qui me semblent importants. Après, je dénigre pas du tout ça. Hein. Je serais même incapable de le faire, en fait. C'est un autre métier, beaucoup plus technique. C'est très différent. Et d'ailleurs, on a des statuts différents. Hein. On est artiste-auteur, ce que je suis moi, ou on est artisan.
D'accord. Et donc, tu as commencé par la musique, le chant.
Ouais, par ça et aussi par le voyage. Quand j'ai terminé mes études, je suis partie faire un tour du monde avec une amie qui s'appelle Yuki, qui est franco-japonaise.
C'est les vidéos qu'il y a sur YouTube ?
Il y en a certaines,
ouais. Bah, j'invite les auditeurs à aller voir.
Il y a aussi des vidéos sur le stop qui étaient des voyages un petit peu après.
Okay.
Et on est parti 14 mois rencontrer 81 femmes nées en 81, comme nous deux.
Okay.
Donc c'était des femmes de 25 ans à l'époque, ça date un peu, qui réalisent leurs projets malgré des situations difficiles. Donc elles vivent dans des déserts, dans des bidonvilles, dans des prisons, elles ont vécu des choses très compliquées, mais elles arrivent à identifier leur marge de manœuvre, leur marge de pouvoir pour réaliser des projets assez extraordinaires. Et elles ont des profils variés. Il y en a qui sont sportives, qui sont leaders politiques, qui ont créé leur entreprise, qui sont travailleuses sociales, en tout cas qui changent les choses. Et dans tous mes projets, il y a un peu ça en commun, c'est-à-dire le travail sur la contrainte. Partir de situations complexes, et a priori pas favorables, et réussir à les transformer par un parcours un peu de résilience. Et voilà, j'ai commencé par ça. Et au retour, j'ai écrit donc mon premier livre sur ce ce projet qui me tenait beaucoup à cœur, qui s'appelle Same Same But Different. Mm-hmm. C'est une expression qu'on entend en Asie pas mal. C'est une façon de relativiser, dans le sens où en Thaïlande, par exemple, je sais pas, tu commandes du poulet et t'as du bœuf et on te fait.
C'est ça, mais c'est pas ça.
C'est pareil, mais différent. Same Same But Different. T'as réservé un hôtel, c'est pas celui-là. On te fait, mais Same Same But Different, tu dormiras pareil. Façon de relativiser.
Bah, finalement, ouais, c'est ça, c'est un mode de vie.
Ouais, et puis c'était aussi un clin d'œil à ces femmes qui sont les mêmes, dans le sens où elles ont le même âge, exactement. Oui. Mais elles ont des parcours hyper singuliers. Et donc, c'était tout ce petit paradoxe-là entre voilà, être des femmes d'une même génération, mais qui vivent aux antipodes les unes des autres et qui ont pourtant pas mal en commun. Et du coup, au retour de ce projet-là, j'ai fait pas mal de conférences, j'ai beaucoup défendu ce livre. Et moi, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, alors je témoigne de ces femmes qui osent. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je peux pas trouver un boulot planqué après avoir... prêcher leurs paroles de prise de risque et tout ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à être chanteuse et à écrire des livres en parallèle. Je sais pas, tu veux que je te raconte le livre d'après
donc,
ou...
Je sais pas comment. Il y a trop de trucs, vous avez... Ouais. Alors, avant de préparer cette émission, je me suis dit, attends, comment on va articuler le truc? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que t'as 20 vies dans ta vie. Par où commencer? C'est tellement riche. Alors, c'est toi, hein, c'est ta vie, mais c'est vrai que tu fais tellement de choses que... je pense que c'est important justement qu'on commence par là, par quoi t'as commencé, et puis ton cheminement, limite, on reprend...
La chronologie.
Ouais, la chronologie, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
Oui, c'est vrai, parce que tout ça, c'est des chemins et c'est pas toujours ce que t'as prévu. C'est-à-dire que j'avais une destination à l'origine et bon, je vais pas exactement là et c'est parfait, tant mieux, il y a de la surprise.
Mais, Moi, j'ai juste une question du coup sur ce voyage. Tu dis que t'as rencontré des femmes qui sont nées en 1981, donc qui ont le même âge que toi. Comment déjà tu as eu cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet-là?
Alors, les idées, elles viennent de façon un peu instinctive. Je ne sais pas comment. Je me réveille la nuit, je suis insomniaque. Hein. Il se passe beaucoup de choses la nuit chez moi. Et je me réveille et je me suis dit comment commencer dans la vie un peu. Voilà, comment? Et je me suis dit, j'ai besoin d'exemples inspirants. Okay. Donc, je vais aller les chercher et puis je vais les partager. Peut-être que ça servira à d'autres aussi. C'était vraiment d'abord regarder les autres et ensuite se poser la question de, moi, qu'est-ce que je fais alors? Quelle est ma place dans le monde? Qu'est-ce que j'essaie d'apporter comme petite chose, quoi.
Mais à l'étranger, oui. Ça aurait pu être, le Tour de France?
Oui, je l'ai fait après. J'ai commencé par voyager loin, puisque ça m'avait été complètement interdit et j'avais l'impression qu'il fallait aller voir loin. Et au fond, je me rapproche de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui, puis avec les préoccupations écologiques actuelles, je ne ferai plus jamais ce genre de projet. C'était il y a longtemps, hein, c'était quand même la génération Erasmus où on voyageait comme on... Voilà.
Ouais.
C'était quelque chose de beaucoup moins conscient. Et aujourd'hui, je crois que voyager, ça peut être au bout de la rue, en effet, dès lors que tu connais pas les situations, les gens, ce sont des voyages. Mais en tout cas, ça a été pour moi quelque chose d'initiatique et de très fort. Et j'ai souvent pensé à elle dans les moments de doute, justement, quand ça marchait pas trop, quand je me disais, allez, il faut persévérer un peu, quoi. T'es quand même dans un contexte beaucoup plus favorable. Si elles y arrivent, il n'y a pas de raison que toi, non.
Ça a été un peu ta force. Ton moteur. 81 femmes, tu m'as dit. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a une qui, comme ça, sort du lot, qui t'a marqué?
Ouais, elles m'ont toutes marqué, mais avec le recul, c'est sûr qu'il y en a une dont je me souviens particulièrement. Ouais. C'est une femme qui s'appelle Véronica, qui est argentine, et qui était prof d'histoire géo dans son pays, qui avait deux enfants, et qui s'est fait arrêter en Équateur. Moi, je l'ai rencontrée dans une prison en Équateur. Elle s'était fait arrêter parce qu'elle portait de la drogue pour son mec. C'est ce qu'on appelle une mule. Beaucoup de femmes sont incarcérées pour cette raison. Et quand on l'a rencontrée, ça faisait 8 ans qu'elle était là-bas et qu'elle avait toujours pas été jugée. Et elle nous a raconté qu'au début, quand elle est arrivée dans la prison, elle a voulu se foutre en l'air, quoi. Elle est arrivée en se disant, ma vie est foutue. Elle a vu que les femmes se prostituaient dans la prison pour gagner de l'argent. Parce que là-bas, il faut tout payer. C'est pas du tout comme chez nous. Si tu veux manger autre chose que de l'eau et du riz, il faut de l'argent. Sa famille l'avait complètement abandonnée. Et en plus, les femmes s'arrangent entre elles. C'est des prisons assez ouvertes où tu arrives, tu dis bonjour, je viens vers Gloria. Et elles s'arrangent entre co-détenues. Elles peuvent sortir dans l'enceinte. Et les hommes viennent parce qu'elles font des passes 10 fois moins chères qu'en ville. Et donc, elles voulaient.
Les gens viennent de l'extérieur?
Ouais.
C'est une ville dans
la prison.
Dans la prison, quoi.
Et donc elle s'est dit, moi je veux jamais en arriver là. Et au début elle a pensé vraiment lâcher l'affaire, abandonner. Ouais. Et puis elle s'est dit, il faut que j'accepte cette situation, j'ai pas le choix, je suis dans cette prison. Mais qu'est-ce que je peux faire de l'intérieur pour servir à quelque chose, pour me sentir utile? Et elle a eu deux idées. La première, c'est de créer une école pour les enfants qui vivent avec leur mère, parce qu'il y a 200 gamins qui sont dans la prison avec leur mère. Comme elle était prof, elle s'est dit, bah, moi, je vais leur enseigner ce que je peux. Et puis, son autre idée a été de créer un journal pour les femmes, pour qu'elles puissent s'exprimer et pour qu'elles puissent avoir une source de revenus. Elle a fait un partenariat avec une association qui a vendu le journal dans tout le pays, ce qui a permis aux femmes qui le souhaitaient de sortir de la prostitution pour gagner leur vie comme ça.
Incroyable.
Et ce qui était fascinant là-dedans, c'est que Véronica nous a dit aujourd'hui, ce serait plus difficile de sortir de la prison que ça l'a été d'y rentrer. Parce que, bien sûr, ce n'était pas mon plan de vie, hein, mais je sers vraiment à quelque chose.
Elle a trouvé un sens à sa vie.
Voilà. Et c'est très fort de se dire, en fait, quoi qu'il arrive, on a toujours une marge de manœuvre et l'identifier, ça te permet de tout accepter, au fond.
Ouais. Ouais. Il faut quand même avoir une force mentale.
On l'a toute. Il faut juste la trouver, parfois elle est un peu planquée. Mais...
Sandra Rinflet est avec nous et on parle de son parcours d'artiste. On va parler aussi, bien évidemment, de l'exposition Nouvelle Reine qui a lieu jusqu'au 27 avril à Saint-Denis, à la Basilique Cathédrale Saint-Denis. Je propose qu'on fasse une pause musicale. Sandra, en radio, tu dois connaître, c'est comme ça, on fait des pauses assez régulièrement. Et je propose justement qu'on écoute La peur à la porte. Alors, c'est un titre qui est assez ancien, mais je voulais quand même qu'on écoute une de tes musiques. Et peut-être que cette peur, on va pouvoir en parler aussi juste après. Ça te va ?
Très bien.
À tout de suite sur IDFM Radio.
J'avais peur de l'ennui et des chagrins d'amour, peur des chats qui oublient de faire pattes de velours. J'avais peur des avions, j'avais peur des avis, peur de demander pardon, d'être seule dans mon lit. J'avais peur de faire mal, j'avais peur de mal faire, craignais le vent l'hiver, la troisième guerre mondiale. Mais toi, sans peine, sans escorte, t'as mis. Ouais, toi, sans peine, sans escorte, que le rire qui l'emporte, t'as mis. La peur à la porte. La peur à la porte. J'avais peur des silences et j'avais peur du vide, de flétrir d'une absence, peur de chaque nouvelle ride. J'avais peur des insectes, j'avais peur des parkings, de paraître suspecte et de prendre racine. Je craignais les inconnus, les vagues, les ouragans, craignais d'avoir trop bu et d'attendre un enfant. Mais toi, sans peine, sans escorte, que le rire qui l'emporte, t'as mis. D'un coup de pied, d'un coup de foudre, la peur à la porte, et le feu aux poudres, et le feu aux poudres. Oui, toi, sans peine, sans escorte, t'as mis. La peur à la porte. Des morsures, de l'effroi, de la pluie, des accidents de voiture, des promesses qui s'enfuient. J'avais peur des alliances et de tous les contrats, des départs en vacances, dès qu'il viendra, verra. Mais toi, sans peine, sans escorte, que le rire qui l'emporte, t'as mis. D'un coup de pied, d'un coup de foudre, la peur à la porte et le feu. Et toi, sans peine, sans escorte, t'as mis la peur à la porte.
La peur à la porte sur IDFM Radio de Sandra Rinflet. Est-ce que tu veux nous dire avec qui tu as collaboré pour ce titre peut-être ?
Oui, c'est une chanson
si
que j'ai...
Si tu t'en souviens.
Bien sûr. J'ai une amnésie précoce, mais quand même. J'ai co-écrit cette chanson avec un homme qui s'appelle Dorian Segre. Et c'est David Grumel qui l'a composée avec moi.
Alors la peur, hein, on en parlait finalement. Je pense que c'est ce qui va revenir assez souvent dans cette émission. La peur, pour faire un peu écho aussi à peut-être ton enfance, entre guillemets, hein, tes parents qui avaient un peu peur pour toi, qui t'ont un peu mis sous cloche. Et ça, je pense que c'est ce qui a forgé aussi toutes ces actions-là et ce que tu es devenue ?
Mais c'est surtout pas trop l'écouter. Ça, c'est vraiment important. Puisqu'on parlait de voyage, peut-être je vais te parler d'un autre voyage que j'ai fait après. J'ai décidé un jour de partir faire du stop. C'était rigolo parce que je venais de sortir un livre qui s'appelait « Ne parle pas aux inconnus ». C'est un roman qui est sorti en 2017 et qui faisait beaucoup écho à ce que j'avais entendu enfant. Faut pas parler aux inconnus, faut pas sortir, tous ces ne pas qu'on entend enfant. Et je faisais un salon du livre où je dédicaçais ce livre et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Aurélie Streff, qui était attachée de presse à l'époque. Et on rigole bien dans ce salon, elle achète mon livre sur le tour du monde. Elle le lit dans la nuit et le lendemain, elle me dit « Oh là là, ça m'a donné tellement envie de partir, je sais qu'on se connaît pas, c'est bizarre, mais est-ce que ça te dirait de faire un projet avec moi ? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose que t'as jamais fait ?» Je dis « Bah d'accord, je sais pas, j'ai jamais fait de stop et je connais pas bien l'Europe. » Pour moi, voilà, je m'étais dit « L'Europe, c'est proche, on connaît, j'avais voyagé très loin, je pouvais donner le nom des 7000 îles des Philippines, mais je connaissais pas la capitale du Monténégro. » quoi. Je me suis dit « Bon, faisons ça. » Et on a décidé de faire Paris-Istanbul en stop, en 28 jours. Donc c'est un cycle de femmes. Et quand on a parlé de ce projet...
Dis-le plus fort, c'est un cycle de femmes.
Un cycle de femmes.
Incroyable.
Voilà. Et c'était une réponse aux mises en garde qu'on a entendues quand on a parlé de ce projet. On nous a dit, mais vous êtes tarés, vous pouvez pas aller dans les Balkans en stop, habillés comme vous êtes. Parce que l'idée était de ne pas se travestir en Égérie guide du routard. Tu vois, il fait 40 degrés, on avait le droit d'être en jupe, en short, comme on voulait.
Pas en talons quand même.
Pas en talons, j'en mets jamais. voilà. Et quand on nous a dit ça, on a dit, vous allez vous faire agresser, voler, violer, tuer, c'est sympa. Et on a réfléchi, on s'est dit est-ce que c'est une mauvaise idée, est-ce que c'est vraiment trop dangereux ? Et là j'ai repensé au portail de l'enfance quoi. Je me suis dit si je le fais pas, la possibilité d'une agression gagne, c'est-à-dire que l'agresseur éventuel m'empêche de faire quelque chose, ce n'est pas possible, je ne veux pas écouter ça. Et donc on est parti, on a mis des règles, on s'est dit jamais la nuit, si on a une de nous deux qui le sent pas, on n'y va pas. On s'appelait les petites poussettes, parce que comme le petit pousset, on laissait un petit caillou dans chaque voiture et on faisait du pouce. Voilà. Et ça s'est hyper bien passé. Vraiment, on a adoré. Sur la route, tu rencontres des gens que tu croiserais nulle part ailleurs. Comme on est des femmes, on fait pas peur. Donc, au contraire, ça a été un avantage incroyable. On a rencontré des businessmen, des chauffeurs poids lourds, des femmes, des hommes, des familles. Voilà, plein de gens qui nous parlaient de l'Europe et de leur vie. Dans l'habitacle.
C'était un voyage.
Ouais, et ça c'est super, parce qu'on n'a pas du tout fait de tourisme. On faisait 8000 km en 28 jours.
C'était
de la parole. Mais c'était de la parole, c'était fascinant. Et ça s'est tellement bien passé qu'on l'a refait 3 ans de suite, ça. Ensuite, on a fait l'année d'après, on a fait Berlin-Odessa. Et la dernière année, on a fait Athènes-Helsinki. Okay. Et ça, c'était vraiment une manière de ne pas écouter les mises en garde, le fait divers, le fait qu'on nous dise ça va forcément mal se passer. Et ça, c'était fou parce que après ce projet-là, j'ai écrit un livre qui est inspiré un peu de ces traversées, mais c'est aussi une fiction. Et on m'a dit, mais il est bien ce livre, c'est un bon roman pour ça et ça et ça, mais c'est dommage que la partie sur le stop soit pas trop crédible. Je sais, mais enfin, c'est la seule partie documentaire. Ah. Et pourquoi pas crédible ? Parce que la narratrice...
Il n'y avait pas d'horreur.
Exactement, il n'y avait pas d'horreur, donc c'est pas crédible, le stop se passe forcément comme ça. Et je me suis dit que c'était fou, parce qu'on s'empêche plein de choses par peur du fait divers, mais ça reste marginal. Il faut aussi parler des fois où ça se passe bien, et moi je crois qu'avoir confiance en l'autre, c'est hyper important. On est dans une époque où on a peur de l'autre. Ouais. Moi je prépare beaucoup de travaux en ce moment sur ça, sur pourquoi est-ce que l'étranger, au sens large, celui qui ne nous ressemble pas, fait peur et une menace, voire un coupable.
C'est au cœur de l'actu en tout cas.
Ouais, je pense que c'est notre mission aussi en tant qu'artiste de déjouer un peu ça, ou en tout cas de montrer par l'émotion, par le témoignage, qu'on n'a rien à craindre de l'autre, si ce n'est d'apprendre, de s'enrichir à son contact. Quoi.
Et justement, cette envie de défendre des causes, d'être engagée, d'être presque militante par ton travail, par tout ce que tu fais, ça te vient d'où ?
Bon, ça, c'est une conscience citoyenne. Hein. Je pense qu'il y a des artistes qui créent...
Il y a des artistes non engagés, non militants. Tu parlais artisanat, le beau pour le beau. Bon, il y en a qui créent que parce que c'est joli, parce qu'ils trouvent ça joli.
Moi, je crée pour le sens. Il y a des gens qui ont une passion du médium. J'ai des amis qui sont des écrivains, des auteurs, des autrices qui sont passionnés de la langue, du mot, du livre en soi. J'ai des amis photographes qui sont dingues de technique, fabriquer des images. Pour moi, tout ça, c'est juste des moyens de faire passer des... Alors, pas faire passer des messages, mais de poser des questions, en tout cas, ou de toucher, ou de faire réfléchir. Mais au fond, pour moi, oui, que ce soit... Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, que ce soit une image, un mot, un texte. C'est le sujet qui m'intéresse.
Donc, on l'a dit, tout ça, ce sont tes outils. Tes outils et... La femme, elle est présente dans tout ce que tu fais.
Bah oui, parce que j'en suis une, parce que je parle de cet endroit-là et que je pense qu'il y a encore beaucoup de combats à mener pour se sentir égal et libre. Et encore, nous, on est quand même assez favorisés et il y a un mouvement qui change vraiment, un mouvement de société hyper essentiel. Mais je travaille aussi dans d'autres contextes où ça l'est moins. Là, je reviens hier, je reviens de République dominicaine, où j'ai fait un travail sur les femmes qui s'appellent Heroinas, donc des héroïnes, des femmes qui ont vécu, pareil, des violences, de la discrimination, qui sont toutes mères célibataires parce que les mecs s'occupent jamais des enfants. Voilà, et du coup, les mettre en lumière, j'ai fait une expo où elles sont en ce moment en grand, dans les rues, dans une rue publique, piétonne, là-bas. C'est important, enfin, je pense qu'elles ont besoin de visibilité. Et ça, que ce soit des femmes ou d'ailleurs des gens, des publics qu'on appelle sensibles, c'est une de mes missions de vie de les rendre visibles. Dire voilà, je peux donner ou aider à faire à porter la voix de gens qui ne prennent pas la parole tout seuls.
Alors, tu me l'as raconté un petit peu hors antenne, mais est-ce que tu peux nous dire justement comment s'est passée ta rencontre avec la photographie ?
Ben, c'était une sorte de hasard ou destin, je ne sais pas comment on l'appelle. C'était au moment de mon deuxième livre qui s'appelle « Je t'aime maintenant ». Donc c'est un livre dont j'avais eu l'idée après une série de concerts. J'étais partie au Québec, Marine Good Morning, donc tenter sa chance en Amérique. Et donc ouais, je faisais des petits concerts là-bas et j'avais rencontré un garçon qui était venu me voir en concert et puis après m'avait dit viens, tu veux-tu qu'on aille boire un verre là? Et donc on arrive à sa voiture et son pare-brise s'est fait exploser pendant le concert, ce qui est assez rare à Montréal, hein, qui est une ville assez tranquille. Okay. Et au lieu de s'énerver comme tout un chacun, il me prend un bout de verre par terre de son pare-brise, il me le fout sur le doigt et il me dit « je vais te faire une bague avec ». Je lui dis « ah, c'est hyper romantique ». Je rentre en France, je raconte cette histoire à mes copines qui me disent « oh là là, c'est trop beau, et alors, vous allez vous revoir ?» Et je dis « bah non, je pense pas, puis peu importe, c'était super beau comme ça ». Et pour elles, ça ne comptait plus, parce que c'était pas inscrit dans la durée. Et je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait, à l'époque j'avais 30 ans, que on lit autant la valeur des histoires d'amour à la durée. Et j'ai eu l'idée de faire un livre où je mets sur un pied d'égalité toute forme de moments d'amour. Donc j'ai retrouvé les 24 personnes comme un cadran amoureux que j'ai aimé depuis que je suis petite, donc incluant un amour de maternelle, mon père que je voulais épouser à 5 ans, un acteur à qui j'avais écrit à la fin du générique et c'est ma mère qui avait répondu à sa place parce que évidemment jamais il l'avait fait, des histoires
c'était
longues.
C'était qui cet acteur?
Personne ne le connaît, c'est une série qui s'appelait Silas Lavie, c'était, et j'ai appris depuis que c'était un acteur allemand qui s'appelait Patrick Barr. Il est dans le livre, c'était okay. Drôle parce que moi je le connaissais évidemment pas.
Et t'as fait tes petites recherches?
Ouais, je l'ai retrouvé.
Tu l'as rencontré?
Voilà. Ouais. Je lui ai dit, voilà, vous ne me connaissez pas, mais à 6 ans, je voulais vous épouser. Je croyais que vous m'aviez répondu, c'était ma mère, en fait. Mais voilà, vous faites partie de mon histoire avec l'amour.
Incroyable.
Plus que mon histoire d'amour. Et donc, l'idée de ce livre, c'était juste un moment, à une heure particulière. Donc, on part de minuit et on fait toutes les heures. Et je les retrouve et je les photographie à l'heure du souvenir. Et je raconte ce que ça fait de se voir, soit se rencontrer pour lui, par exemple, soit de se revoir 17 ans après. Et pour ce livre-là, je les ai retrouvés, la plupart ont accepté.
Donc très facilement, comment tu les as retrouvés? Comment tu te souvenais des noms de famille? Oui. Est-ce que ça a été quand même un petit parcours du combattant
C'était rigolo, il y avait un petit côté enquête. Il y avait des gens qui étaient des histoires plus récentes et avec lesquelles j'étais encore en contact, bien sûr. Et puis oui, il y a des gens que j'ai dû chercher.
Ton premier amour
Le tout premier, par exemple, je ne l'ai pas retrouvé. Il y en a quatre qui ne sont pas dans le livre, il y en a un qui est décédé.
Et t'en parles quand même dans le livre?
J'en parle quand même, ouais. Un qui m'a dit non, mais pareil, j'en parle et je raconte pourquoi il me dit non. Et deux que j'ai pas retrouvés, dont mon premier baiser qui était un Italien. J'ai tapé son nom, il y en avait 250. Évidemment, je me souviens plus de son visage. Enfin, bon, voilà.
Okay.
Et l'autre personne que j'avais pas retrouvée a finalement été déterminante dans ma vie professionnelle, puisque je racontais une histoire de primaire. Mm-hmm. Moi, j'étais première de la classe, très timide, un peu dans mon coin. Et j'étais amoureuse du cancre de la classe à qui j'avais à peine parlé. J'étais tétanisée, j'y pensais tout le temps. J'écrivais des trucs dans mon journal, mais je lui avais jamais adressé la parole. Et un jour, il vient me voir à une récré. Il me donne un pins AXA Assurance en me disant « Tiens, je te le donne, c'est pour te dire... » Enfin, c'est parce que mon père y travaille et c'est pour te dire que je t'aime. Et
il ça, t'a dit « Je t'aime ».
Il m'a dit « C'est pour te dire que je t'aime,
d'accord,
ce pins ». Et ça, je l'ai porté, mais comme vraiment c'était mon bijou précieux, je le mettais tous
c'était
les jours.
C'était ton alliance.
Voilà, un peu. Et ça s'est arrêté là. Hein. C'était,
oui, non,
ça
mais...
nous suffisait. Nous étions amoureux, je portais son pins, AXA Assurance, voilà. Et lui, je ne l'ai pas retrouvé, donc, et j'ai voulu, pour le livre, faire une photo de ce pins dans notre cours d'école primaire, qui est à Saumur, donc dans l'Ouest. J'y suis retournée pendant les vacances scolaires en me disant, bah voilà, il n'y aura personne, ce sera facile. Et là, j'arrive et il y a des arbres qui ont pété le bitume, il y a des restes de squat partout. Ah ouais. Il y a du verre dans tous les sens, des tags, des restes de squat et des restes d'enfance d'art plastique. Et je comprends que l'école a fermé parce que c'est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants, c'était dans une cité, enfin, il n'y a plus d'école. J'escalade les grilles du portail et là, je suis bouleversée. C'est là où j'ai appris à lire, à écrire, ma vocation est née là. Et je commence à prendre plein de photos. Mais donc, je ne sais pas vraiment prendre de photos. J'ai un petit appareil compact en automatique qui aurait pu être un téléphone. Enfin, c'était pas mon projet la photo, mais là ça s'est imposé. Il fallait que je documente ça et j'ai écrit des petits textes comme des haïkus assez courts qui rappellent les souvenirs comme si le réel ne les entachait pas. Donc je sais pas, il y a un tag par exemple d'un petit personnage avec une boucle d'oreille. Je raconte que il y avait un garçon qui s'appelait Freddy qui avait une boucle d'oreille et du coup tout le monde l'appelait le PD et je comprenais pas pourquoi et je raconte qu'à 10 ans moi aussi je suis devenue PD en mettant une boucle d'oreille. Enfin voilà, toutes ces petites histoires d'enfance. Et ce livre-là, qui s'appelle, enfin ce projet-là, qui s'appelle Qui a tué Jacques Prévert, a eu un prix photo. J'ai eu la bourse du talent en photo qui a été exposée à la BNF et j'ai fait un livre à la Martinière sur ce projet-là. Et d'un coup, on m'a considérée comme photographe.
Voilà.
Et donc, j'ai eu des interviews où on me disait, mais alors techniquement, vous travaillez comment? Et moi, je me sentais hyper mal. J'étais là, techniquement, on s'en fout de la technique. Non, l'important, c'est ce qu'on raconte. Et en vrai, je me sentais absolument illégitime. Et pour autant, j'ai eu l'impression que le monde voulait m'entendre là-dessus. Ouais. Enfin, que voilà, c'était un signe un peu. Bon, moi, j'écrivais des bouquins et vraiment, je gagnais que dalle, quoi. Ça me prenait 14 mois. À la fin, je gagnais 3000 balles. Je me disais, bon, je serais vendeuse au Franprix, je serais 15 fois plus riche, quoi. C'est pas une question d'argent, ouais. Mais c'est quand même une question de pouvoir vivre de ce que tu fais. Et du coup, j'ai fait une école de photo pour me sentir légitime et pour pouvoir aller là-dedans. Parce que je me suis dit que ça me ressemblait davantage aussi. L'écriture, c'est vraiment un marathon de solitude. Écrire, c'est 14 mois en face de ton écran, t'es toute seule, il y a des relectures vraiment qui n'en finissent pas. Et moi, je suis pas quelqu'un de solitaire, j'adore la rencontre, je suis hyper curieuse des gens, des mondes. Et la photographie permet ça, c'est plus rapide, c'est plus intuitif, c'est plus ludique. Et je les lis toujours au texte. C'est-à-dire que j'ai pas du tout arrêté d'écrire, j'ai pour l'heure arrêté de publier. Mon quatrième livre est sorti en 2017, ça fait longtemps. Mais j'écris toujours. Je commence toujours mes projets de photographie par des ateliers d'écriture ou de récits. Et mes photos sont toujours accompagnées de récits. Pour moi, c'est important de lier le texte et la photo. Et depuis, je suis principalement photographe documentaire.
Donc aujourd'hui, on va te contacter, par exemple, pour quel type de projet sur la photographie
Alors, me contacter, c'est pas toujours le cas. C'est souvent moi qui contacte. Ça part souvent de projets que j'ai envie de faire.
Okay.
Par exemple, j'ai fait pendant 6 ans un projet qui s'appelle Voix sur les artistes empêchés, qui a été mon premier projet massif, j'ai envie de dire, de photographie, où je suis allée dans des endroits où l'art est empêché pour raisons religieuses, politiques, économiques ou sanitaires. J'avais rajouté ça au moment du Covid.
Oui.
Et là, c'est...
Parce que toi aussi, pardon, t'as été empêchée un petit peu avec le Covid.
C'était assez drôle, oui, parce que... C'était un projet que je menais depuis 5 ans, que j'avais autoproduit toute seule. Ouais. Enfin, c'était quelque chose que j'avais dans les tripes. Mmh. C'était encore un travail sur la contrainte. Hein. Comment est-ce que, parce que c'est interdit, c'est nécessaire. Mmh. Je pense à l'Iran, par exemple, où j'ai fait une grande partie de ce projet, où j'ai rencontré des artistes qui risquent vraiment leur peau, qui ont, à un moment, peut-être sont partis à l'étranger. Je pense à une metteuse en scène qui s'était fait arrêter plein de fois à Téhéran parce que elle faisait danser des gens. C'est interdit absolument par la charia. À un moment, elle s'est réfugiée au Canada. Là, elle avait des conditions formidables de travail. Mais elle s'est dit, au bout de 5 ans, OK, là, j'ai des subventions, un super théâtre. Mais mon théâtre, là, c'est du divertissement. C'est pour faire joli. Ça change rien. À Téhéran, c'est de la résistance. C'est politique. Mmh. Ça fait avancer les choses. Et donc, elle est revenue. Et quand moi, je l'ai photographiée, j'ai vu un de ses spectacles où elle faisait danser les gens. Je lui dis, mais comment tu fais ça? Et elle me dit, mais on a un mot en farsi qui dit mouvement harmonieux. C'est pas de la danse, c'est du mouvement harmonieux. Voilà, il contourne comme ça la règle. Et j'ai trouvé ça fascinant de voir comment ça donne de la force et de l'importance à ce qu'on fait aussi quand c'est difficile. Là, c'est vraiment une ligne assez fréquente dans ce travail. Et donc ce projet, je l'ai autofinancé. Tout ce que je faisais en France comme action culturelle et tout ça, je l'investissais dans ces prises de vue à l'étranger. Et quand enfin... J'ai eu des prix, c'était le Covid. J'en ai eu 2 la même semaine, après vraiment des années à être finaliste et à pas avoir les prix. Parce que en photo aussi, c'est très cloisonné. On parlait d'expertise, ça change un peu aujourd'hui. Hein. Mais à l'époque, il y avait vraiment la photo photojournalisme, donc la photo très documentaire, type Paris Match, quoi. Et la photo plastique, beaucoup plus contemporaine, abstraite. Et moi, ce que je fais, c'est à la lisière des deux.
C'est-à-dire
que c'est toujours documentaire, mais il y a une mise en scène. Je fais des photos au grand angle, comme des métaphores de la place qu'occupent ces artistes. Et donc, j'étais finaliste tout le temps, mais je les avais pas. Je me suis dit, je suis vraiment la poulie d'or de la photo, j'en ai marre. Et en même temps, je continuais quand même, parce parce que je sentais que c'était important. Et là, pendant le Covid, j'ai deux prix. Donc, j'ai le prix Roger Pic de la SCAM et le prix Carré sur scène la même semaine avec des expos. Sauf que les expos tombent pile quand c'est fermé.
Au confinement.
Je me suis dit, en même temps, je suis tellement dans mon sujet. Je me sentais privilégiée, pays de la liberté d'expression. Voilà, moi, je parlais de contraintes politiques, d'artistes qui créent au Brésil, qui créent. Voilà. Et d'un coup, nous aussi, il y avait cette distinction essentielle, non essentielle. Zara était ouvert, mais pas les théâtres. Je parle du deuxième confinement, principalement, où nous, les artistes, on a eu un sentiment d'injustice dingue. Ok, on n'est pas essentiel. La culture, c'est secondaire. Par contre, le fleuriste est ouvert. Enfin, il y a quelque chose d'assez dingue. Et donc, j'ai rajouté la contrainte sanitaire, qui me semblait assez importante. Et exposé à ce moment-là devant personne. J'ai vraiment eu pas mal d'expos. Et c'était en même temps une façon parfaite, quoi. C'est une mise en abîme de mon sujet en me disant, on n'est jamais à l'abri. C'est fragile. Nos acquis, nos droits, nos libertés, elles sont sur le fil, quoi. Il faut vraiment y faire attention. Ça se joue à pas grand-chose de les perdre. Et on le voit beaucoup sur les droits des femmes aujourd'hui, entre autres.
Et justement, pour tous ces voyages-là, donc pour ce projet Voix, pareil, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a plus marqué qu'un autre ?
Il y a eu donc le Iran, c'était très fort. Je suis allée en Papouasie-Nouvelle-Guinée par les.
L'Iran, pardon, c'était que cette femme-là où tu as.
Ah non, non, j'en ai.
Il y a eu. Je crois qu'il y a eu un groupe de rock aussi, de femmes.
Oui, il y a eu pas mal de. Oui, à chaque fois, je faisais plusieurs portraits.
À chaque fois, t'en faisais plusieurs.
Mm-hmm. Je suis allée en Mauritanie pour parler, pareil, d'une autre forme de. C'est la charia, pareil, mais beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que les personnes, les artistes ne risquent pas leur vie, ils risquent une pression sociale. Je suis allée à Madagascar parler d'une contrainte économique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une contrainte géographique et du fait que dans ce pays il n'y a aucune salle de spectacle, aucune salle d'exposition. Donc les artistes vendent leurs toiles sur les parkings de supermarchés, t'achètes une toile comme t'achètes un coca en sortant de tes courses. Et au Brésil, sous Bolsonaro qui venait de supprimer le ministère de la culture quand le danseur étoile de l'Opéra de Rio était devenu chauffeur Uber. Donc voilà, tous, ils m'ont marqué tous pour des raisons différentes. Mais pour revenir à ta question de ce qu'on me demande, parce que ça, c'était vraiment un projet personnel. Mais parfois, je réponds à des appels d'offres, ce que je fais beaucoup sur le territoire en France. J'ai travaillé pendant un an au Framboisin, dans la cité du Framboisin, qui est en rénovation urbaine. Là, c'était un appel à projet du département.
Autour de quoi ? De l'écriture, pareil, la photo
aussi ? Les deux. C'était plutôt une bourse d'écriture, mais moi, j'ai proposé les deux, comme d'habitude. Et là, j'ai fait parler des habitants de cette cité, dont on parle que, pareil, pour le fait divers. Ouais. Et oui, c'est moche cette cité, c'est vrai, ils la reconstruisent parce que l'architecture a été construite à l'ancienne, mais en même temps, il s'y passe des choses incroyables. Et moi, je voulais parler de ce qui est beau là-dedans. C'est, oui, l'architecture est moche, mais le lien des gens entre eux, on a beaucoup à en apprendre. Et donc, j'ai fait une expo qui était in situ dans la cité, des grands portraits d'habitants avec textes et photos. J'y ai passé un an et c'était merveilleux pour eux qu'on parle d'histoire singulière et pas que au collectif. Parce que c'est toujours ces cités, c'est toujours le fait divers, le collectif. Et voilà, j'essaie de faire ça dans plein de contextes différents. On m'appelle beaucoup pour, là je vais dans l'Est par exemple, je commence une nouvelle résidence dans le Grand Est sur l'hyper-ruralité et je fais un projet qui s'appelle Lieux communs pour parler du fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est très lié à la situation politique, hein. C'est une France qui se sent abandonnée parce qu'il n'y a plus de services publics. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de lieux communs, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de café dans ces endroits-là. Et du coup, les gens votent hyper à droite parce qu'ils ont l'impression que c'est la solution. Il faut un coupable, forcément, c'est l'étranger. Et moi, je crois que la solution, c'est le service public. Donc, je vais faire un projet où je vais aller chez des gens, donc aller de maison en maison, puisque tout se passe à l'intérieur, dans des lieux assez fermés, assez privés, et leur demander de m'emmener chez quelqu'un d'autre et faire ainsi un tour du territoire qui s'appellera lieu commun, mais qui sera que dans des lieux privés. Pour parler de ça, du manque.
Il y a des sujets, c'est vrai qu'il y a énormément de sujets à traiter, même en France, parce qu'on parlait de l'étranger, mais même en France. On a parlé de tous tes projets, tu fais plein de projets, il n'y a pas que ça. J'ai vu que tu faisais aussi des projets en Normandie avec des jeunes. Mm-hmm. On peut le voir sur ton site, on redonnera ton site internet. Juste après la pause, et on va parler surtout de cette exposition qui a lieu à Saint-Denis. Je propose qu'on fasse une pause musicale et on se retrouve dans un instant justement pour parler de ton exposition. Restez bien branchés sur IDFM Radio. Je rappelle qu'on est avec Sandra Rinflet. Est-ce que je prononce bien ton nom, Sandra ?
Très bien, Rinflet. Et pourtant c'est vraiment un nom que j'aurais pu changer parce que il y a très peu de gens qui le prononcent bien.
À tout de suite.
Toi tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs, de ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément, mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à deux c'est malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié, mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans les nuits s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Retour dans le carré des artistes aujourd'hui dédié à Sandra Rinflet qui est avec nous. Couteau suisse, un véritable couteau suisse. Alors sur le couteau suisse, tout fonctionne bien. Donc on est experte à chaque niveau. Je répète, hein, tu es chanteuse, tu es photographe, écrivaine et engagée, militante, tu peux le dire, par tes arts.
Ça te va ? Oui, ça me va. Chanteuse, j'avoue, je le fais plus vraiment. On peut dire que ça fait partie du parcours, mais aujourd'hui, ça, pour moi, c'est quand même un peu du passé, même si je chante volontiers sous la douche, mais
inventeuse d'histoires vraies, voilà, tout simplement. On parlait de toutes ces actions, des appels à projets auxquels tu répondais, et je crois que tu voulais me parler de celle de la BNF.
Ouais, oui, parce que c'est assez rare qu'il y ait des vraies commandes carte blanche.
Ouais.
Et il y a quelques années, le ministère de la Culture, avec la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, a fait un appel à projet historique en sortie de Covid. Ils ont proposé, ils ont choisi 200 photographes pour réaliser un projet sur la France, qui s'appelle La France sous leurs yeux. Et c'était des conditions vraiment super, parce qu'on avait 6 mois assez bien dotés pour réaliser un projet qui nous tenait à cœur et pour faire un état des lieux de la France post-pandémie.
D'accord.
Et moi, j'ai travaillé sur un sujet un peu différent d'habitude, puisque d'ordinaire, je travaille vraiment plus sur les gens, je fais beaucoup de portraits. Et là, j'ai travaillé sur le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Oui. Ou quelque chose de plus militant, quelque part. Parce que j'ai découvert ça pendant un autre projet que je faisais sur l'hyper-ruralité dans la Meuse. Et là, j'ai découvert ce projet dont j'avais jamais entendu parler, qui est d'enterrer les déchets les plus radioactifs de France à 500 mètres. Et c'est des déchets qui sont radioactifs pendant 200 000 à 400 000 ans, donc c'est énorme. C'est pas encore fait, mais tout se met en place pour que ce soit le cas. Oui. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était le processus d'acceptation de ça. C'est-à-dire que pour que les populations ne se lèvent pas trop contre, parce que c'est quand même une pollution éternelle de leur terre et une prise de risque énorme. Les scientifiques que j'ai rencontrés disent que à cette une telle échelle de temps, on ne peut pas savoir. Oui. On cherche les solutions du moins pire, mais on ne peut pas savoir comment ça évolue sur tant de temps. Néanmoins, il faut en faire quelque chose parce qu'on développe l'industrie nucléaire et qu'on a développé une industrie qui n'avait pas de solution. C'est quand même magique, ça, de se dire, on s'est dit dans les années 70-80, nous trouverons une solution. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, on cherche quelque chose. Et pour faire accepter ce projet-là, il rince le territoire de subventions. Mais c'est énorme. C'est 32 millions d'euros par an et par département depuis 20 ans. C'est les départements parmi les plus pauvres de France et les moins peuplés. Ça a été choisi entre autres pour ça. Et donc moi je me suis dit, oh, mais c'est, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est officiel, hein. Enfin, c'est, on peut trouver
donc,
absolument ces
infos. 32 millions d'euros par an pour chaque lieu qui recevrait...
Pour les deux départements concernés.
D'accord, donc il y a quoi comme département ?
La Meuse et la Haute-Marne.
D'accord.
Et c'est assez fascinant de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que du coup, tu as des aberrations dans le paysage. Pareil, ce n'est pas du service public. Il n'y a pas plus d'école, il n'y a pas plus de médecins, il y a tout ça. Par contre, il y a des routes nickel. Ils ont enfoui tous les câbles, ils ont rénové les églises et ils ont fait des constructions incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des piscines gigantesques, des
pour
salles
personne.
Des fêtes dans des bleds de 80 habitants. Donc il y a des flics, enfin Bure c'est 80 flics pour 80 habitants, parce qu'ils surveillent ce qu'ils appellent les éco-terroristes, hein, qui sont juste les militants qui sont là pour dire qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai voulu photographier ça pour dire ok, donc c'est comme ça qu'en France on fait accepter par le court terme et par l'argent un projet qui va concerner des générations. Et donc au départ j'ai photographié ces constructions sur le territoire. Et puis je me suis dit c'est dommage de pas donner la parole aux gens qui ne se taisent pas. Le projet s'appelle Le Prix du Silence. Ce que d'ailleurs j'ai trouvé quand même super, on est quand même encore au pays de la liberté d'expression.
Ouais, on a quand même le droit encore de dire qu'on n'est pas d'accord.
C'est du financement public et avec le financement public je dis voilà ce qui se passe. Donc ça j'ai trouvé ça super d'avoir cette possibilité là quand même avec un vrai jury indépendant qui sélectionnait les projets. Et j'ai photographié les gens qui du coup ne se taisent pas et c'était fascinant aussi de confronter les différentes façons de militer contre. Parce qu'il y a à la fois les agriculteurs du coin qui n'étaient pas militants, qui se le retrouvent de fait, parce qu'ils sont là, c'est leur terre. Et les gens qui sont venus militer, qui sont beaucoup plus hardcore, avec des convergences des luttes. Et du coup, ces gens-là ne se comprennent pas toujours. Parce que les militants qui viennent, je sais pas, de Notre-Dame-des-Landes disent comment ils se genrent à chaque réunion, sont vegan, et le paysan du coin, il arrive bien sûr avec sa bouteille de rouge et son saucisson. voilà. Et c'est hyper intéressant de comprendre comment des gens qui ont une même cause font pour travailler en commun ou ne pas travailler en commun. Alors, en tout cas, c'est un des récents projets que j'ai fait et c'était passionnant. Et je pense que c'est aussi le rôle des artistes de ça, de donner une autre vision de fait de société en passant par la sensibilité et le témoignage individuel.
Et comment t'arrives à faire vivre tous ces projets-là ? Parce qu'une fois que c'est créé, enfin, t'as envie de le faire vivre, de le faire découvrir. Comment ça se passe pour une artiste photographe
Moi, je fais souvent des expos dans des lieux publics.
Ok.
Pour moi, ça c'est très important quand je peux de pas exposer en galerie, mais d'exposer dans la rue. C'est-à-dire faire en sorte que les gens n'aient pas à venir voir le travail, mais que le travail vienne à eux. Et puis là, pour l'expo sur Bure, en l'occurrence, il y avait une exposition collective à la BNF, qui ensuite a été dans un musée qui s'appelle le Musée Niepce à Chalon sur Saône et à Clermont-Ferrand. Et là, je vais le faire dans un théâtre à Rungis, Théâtre National de Rungis, à partir de janvier. Voilà, j'essaie de le faire tourner le plus possible.
Donc, tu gardes toutes tes photos, tout ce que tu imprimes. Je suppose que c'est quand même imprimé sur des grands posters, sur du matériel qui coûte assez... Bah, c'est cher, une fois que c'est fait, tu les gardes, tout ça ?
Là, en l'occurrence, je vais les donner. Bure, pour moi, quand ce sera fini, je vais les donner là-bas. Je vais les donner aux militants pour qu'ils en fassent quelque chose. Moi,
d'accord.
Ça ne me sert à rien dans ma cave.
Hein. Ouais.
Sinon, oui, ça, c'est un petit problème de photographe de stocker oui, ces énormes tirages.
Une voix. Pièce en plus ?
Ouais, non, j'arrive plus à marcher dans ma cave et il y en a partout.
Okay. Oui, parce que c'est quand même, c'est quand même important de le faire vivre tout ça, tu vois, un livre, tu l'achètes, tu peux le garder, tu y reviens, mais une expo.
Ouais, j'essaie de les faire tourner le plus possible. Après, quand je peux, je les donne. Enfin, je pense à l'expo du Franc-Moisin, quand on l'a démonté, les gens qui étaient photographiés ont pu prendre leur portrait.
Ils l'ont gardé.
Bon, ça fait 1m80, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais.
Poster à la maison,
un poster en dur, hein. C'est du solide.
Allez, dernière ligne droite de cette émission, le Carré des artistes aujourd'hui dédié à Sandra Rinflet, cette artiste, autrice, chanteuse, photographe, voyageuse, conférencière, maman, on peut le dire.
C'est vrai, ça prend aussi du temps, ça.
Bien sûr. Bref, vous l'aurez compris, elle est au bon endroit, hein, le Carré des artistes, il est dédié justement à ces artistes, ces femmes et ces hommes passionnés. Tu es venue nous parler principalement, Sandra, aujourd'hui de cette exposition qui a lieu, puisqu'elle a débuté hier, qui a lieu à la Basilique Saint-Denis, donc chez toi.
Ouais, à la maison.
À la maison. Est-ce que tu peux nous teaser cette expo?
Bien sûr. C'est un travail que j'ai envie de mener depuis assez longtemps, parce que j'habite à Saint-Denis, que je vois cette basilique où sont enterrées les reines de France. Il y a 32 reines de France qui sont enterrées là-bas. Et moi, je trouve que c'est très déconnecté de la vie réelle de Saint-Denis et des femmes qui sont pour moi les reines d'aujourd'hui, c'est-à-dire des souveraines, les femmes qui reprennent les rênes de leur vie après avoir vécu pas mal de galères. Et du coup, j'ai eu l'idée de photographier les vitraux qui représentent les reines de France, donc les reines historiques, et de les vidéo projeter sur les corps de femmes qui sont les reines d'aujourd'hui dans la ville. Donc, c'est des femmes qui sont dans l'ombre, hein, souvent.
Ou des dionysiennes.
Des dionysiennes, oui. Il y a des femmes d'Aubervilliers aussi, hein, autour, quoi. Mais c'est principalement des dionysiennes.
93.
Et c'est des femmes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont été victimes de violences, qui vivent avec le VIH, qui voilà, ont eu des parcours de vie chaotiques, disons, mais qui aujourd'hui relèvent la tête, quoi. Voilà, des femmes qui gèrent la famille, qui gèrent la communauté, qui montent des projets dont on parle pas beaucoup et qui pourtant sont essentielles, fondamentales dans la cité, dans le rôle qu'elles tiennent tous les jours et qu'on regarde pas souvent. Et là, elles sont illuminées quelque part par les vitraux, donc l'éclairage, les portraits sont faits exclusivement avec les vitraux, donc c'est comme si leurs aïeuls les mettaient enfin en lumière. Et j'ai réalisé 32 portraits qui seront exposés à la fois sur le parvis et dans la basilique, dans la crypte. Ce sera des très grands formats rétroéclairés et qui vont côtoyer les reines d'avant. Et je trouve ça génial de dire qui on met en valeur aujourd'hui, c'est quoi le patrimoine humain aujourd'hui, c'est qui les vraies souveraines. Ben, c'est ces femmes-là qui sont hyper impressionnantes, qui arrivent à se redresser de tout, qui se tordent les chevilles mais qui marchent quand même.
Comment donc je pense que tu as dû être mise en contact avec ces femmes-là via des structures.
Ouais.
Comment tu les as sélectionnées, puisque il y en a des centaines, des milliers de femmes comme ça.
Bien sûr, là c'est 32, mais c'est 32 qui représentent toutes les autres au fond. Ouais. Et d'ailleurs en vrai c'est 31. Ce qu'on a fait dans l'expo, c'est il y a 31 portraits,
okay.
Et le dernier c'est une vidéo projection avec une toile vierge. Et je propose aux visiteuses de se prendre en photo et d'être la 32e.
Okay.
Parce qu'en vrai oui, ça pourrait être toi, ça pourrait être toutes les femmes en fait, voilà, qui ont une sorte de reprise de pouvoir en elles. Et j'ai commencé en fait ce projet il y a un peu plus d'un an et demi, par un appel à projet d'un festival qui s'appelle Photoclimat à Paris, qui m'avait proposé de faire une résidence avec une association dionysienne qui s'appelle Icambéré, qui suit des femmes dans des affections longue durée.
Okay.
Donc elles ont du diabète, elles sont séropositives ou d'autres maladies chroniques longue durée. Et elles les accompagnent dans tout ce qui n'est pas médical. Se dire que le soin, ben, c'est d'aller bien, c'est de partir en vacances, c'est de prendre soin de soi, c'est d'être ensemble, de bien manger. Voilà. Et donc j'ai commencé avec elle. Les 10 premiers portraits avaient été exposés place de la Bastille en septembre dernier pendant Photoclimat. Donc là, c'était que des femmes de cette association-là. Et moi, j'avais vraiment à cœur de le faire exister à la Basilique. Pour moi, c'est là que c'est né et c'est là que ça doit exister.
C'était aussi avec les vitraux projetés sur elle. D'accord, donc ça avait déjà...
J'avais commencé ce projet par là. Et ensuite, pour moi, c'était vraiment le point de départ. Mais je voulais en faire 32. Je trouvais que c'était très fort d'avoir le même nombre. Et du coup, j'ai contacté d'autres structures. Il y a des gens de la ville de Saint-Denis qui m'ont aidé à identifier un groupe de femmes victimes de violences. Il y a un groupe de quartier de Aubervilliers. J'ai rencontré des femmes qui font de l'alphabétisation. Et puis, des dionysiennes que je connais. Parce que par tous mes projets, j'ai des héroïnes. J'ai mes propres héroïnes.
Bien sûr. Et comment ça s'est passé alors le côté pratique, prendre les photos de ces femmes qui certainement n'ont pas l'habitude de se faire prendre en photo.
Il y avait d'abord du récit. Je prends jamais la photo toute d'un coup.
Tu dis pas mets-toi là, hop.
Non. D'abord je les rencontre, mais c'est pareil dans tous les projets. Je passe souvent beaucoup plus de temps à ne pas faire de photos qu'à faire des photos. Dans la résidence aux Framboisins, j'ai passé 3 mois à rencontrer les gens sans faire de photos. À Bure, pareil, au moins 2 mois à comprendre les enjeux, à rencontrer les gens avant de photographier.
Okay.
Pour moi, c'est important de comprendre, de connaître et qu'on se parle, que ce soit co-construit en fait ces images. Du coup, avec les femmes, c'est pareil. Elles m'ont d'abord raconté leur histoire et ensuite j'ai monté un petit studio avec une assistante super qui s'appelle Marine Lecroix, que je remercie au passage. Et là, on leur a proposé de choisir le vitrail qu'elles souhaitaient et on a travaillé. Ça dépend tellement de la peau des femmes, de comment ça sort sur leur visage. Il y a quelque chose de un peu magique. Je peux pas préparer avant.
C'est du sur-mesure presque.
Et puis comme c'est très subtil, c'est-à-dire que ça se joue au centimètre près, le fait que un bout de couronne tombe sur l'oreille de la femme ou pas. Donc c'est très délicat et il y avait une grande surprise. Ça dépendait vraiment du corps de la femme sur lequel était projeté le vitrail de la reine.
Eh bien, on invite nos auditeurs à aller participer, voir cette exposition qui se déroulera jusqu'au 27 avril 2025. Du coup, là, on a le temps.
On a le temps, mais il faut jamais attendre. Après, peut-être, on sera mort.
C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être C'est peut-être la phrase qu'on peut retenir. Vivons notre vie et vivons-la
maintenant.
Maintenant, voilà, c'est vrai.
Mais n'ayons pas trop peur, surtout. N'écoutons pas trop les mises en garde. Elles veulent nous protéger, mais elles sont surtout assez enfermantes.
Mais toi, en tant que maman, alors comment tu es avec tes enfants?
Ah ben, j'essaie de pas être trop enfermante, mais alors entre notre discours et la réalité, il y a toujours un petit hiatus. Hein. Moi, je m'étais dit avant d'être mère, je ferai jamais de chantage. Évidemment, j'en fais toute la journée. Enfin voilà. Okay.
Mais je veux dire, tu les mets en garde, attention.
Non, pas trop.
Ou t'essayes vraiment de.
Pas trop. Du coup, c'est plus. Mais peut-être que par réaction, du coup, ils auront très peur. Hein. On ne sait jamais ce que ça fait. Non, je suis plutôt la mère à qui on dit de faire attention. Qu'on
D'accord.
appelle au parc okay. en disant, Madame, votre enfant est en haut de l'arbre. Et moi, je dis, bah c'est super, il est bien monté. Voilà.
Il est trop fort.
Mais okay. évidemment, on se construit toujours en réaction. Donc j'essaie d'être bien sûr une mère différente de celle que j'ai été. Après, les enfants sont tellement des individus en soi qu'on n'a pas la main, on accompagne comme on peut.
Peu importe ce qu'on leur dit.
De toute façon, on fera mal. Donc faisons de notre mieux en assumant que ce sera un peu foiré à la fin et qu'ils nous le reprocheront.
Nouvelle Reine, si vous voulez avoir toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet idfm98.fr. Sur le site internet aussi, peut-être de Sandra, est-ce que tu peux donner ton site internet?
Ah bah, c'est très simple. C'est sandrarinflet.com.
Tout simplement.
Très difficile à écrire mon nom en revanche, mais vous trouverez.
Rinflet, R-E.
INFLET.
Ouais. Merci Sandra. Merci beaucoup d'être passée au micro d'IDFM Radio. Juste une dernière question. Est-ce que, avec tout ce que tu as vécu, avec vraiment toute l'émotion que tu as et que tu donnes dans ton travail, est-ce que tu penses à faire une autobiographie? Je sais que t'es jeune, hein, mais je veux dire, est-ce que il y a tellement de choses, il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement de rencontres aussi? Est-ce que tu as pensé déjà
à... Alors quand je serai très très vieille, si ça intéresse encore des gens peut-être. Pour l'instant, chaque projet a une part autobiographique. Hein. Moi, je crois pas trop à la différence entre fiction et réel. Je pense que dès lors qu'on prend un angle de vue et pas un autre, c'est une fiction. Dès lors qu'on choisit un mot ou pas un autre, c'est aussi une mise en scène. Et inversement, on peut jamais être complètement objectif, complètement subjectif. Donc même quand je fais des projets comme Bure, il y a une grande part autobiographique dedans, quand ça semble éloigné. Donc c'est une petite mosaïque d'autobiographie.
Ensuite, donc, faudra tout coller. Et...
Voilà, trouvons quelqu'un qui un jour fera un puzzle.
C'est ça.
Plus tard. Si ça sert à quelqu'un.
Bah oui, merci. Merci Sandra. Merci. Je rappelle que ton exposition Nouvelle Reine à la Basilique de Saint-Denis est visible jusqu'au 27 avril 2025. Tes romans toujours disponibles. Je t'aime maintenant, il est disponible. Le dernier que tu as écrit, c'est celui-ci ou pas?
Non, c'est non. Ne parle pas aux inconnus.
Ne parle pas aux inconnus.
Enfin, disponible, il faut les chercher maintenant. Hein. Je pense sur Internet, vous savez, l'espérance de vie en librairie, elle est courte.
Oui, mais ça c'est toujours dispo sur Amazon, pour pas le citer, même si j'aime
n'achetez
pas.
N'achetez pas chez, n'achetez pas si chez eux, pas, allez chez des petites commandes de libraires indépendants, ça doit se trouver.
Cultura ou je sais pas. Voilà. C'est pas trop indépendant, mais bon. Donc je répète, ton site internet sandrarinflet.com, tu as aussi les réseaux sociaux, on peut te retrouver hein, sur Instagram, sur YouTube aussi, où il y a pas mal de vidéos. Merci beaucoup, merci.
Et avec plaisir.
Si les auditeurs souhaitent réécouter cette émission, elle sera disponible en podcast sur le site internet de la radio. Et puis, est-ce que tu m'autorises à te prendre en photo?
Alors oui, même si je déteste être de ce côté de l'objectif, d'accord.
Belle journée à tous à l'écoute d'IDFM Radio, à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
IDFM Radio, 98 FM.
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck, le troisième dimanche, de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.
Vous avez des questions d'ordre juridique? Les avocats du barreau du Val-d'Oise y répondent dans l'émission Tous les droits, le premier lundi de chaque mois, de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Envoyez votre question à l'adresse tldidfm@gmail.com et nous y répondrons à l'antenne.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois à 18h, rediffusée la semaine suivante.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis donc, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Retrouvez-moi, Benoît, tous les 2e et 4e dimanches du mois de 23h à minuit pour Grabuge, l'émission métal et musique extrême. Partage ma passion, la musique métal. Rendez-vous des métalleux insomniaques de 23h à minuit, les 2e et 4e dimanches du mois. Grabuge pour le plaisir et bien finir la semaine et dégourdir vos oreilles. Grabuge, tous les 2e et 4e dimanches du mois sur IDFM Radio.